Yannick Petit aborde Wagon Livre jusqu'à 22h sur votre radio locale. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour la deuxième partie du compte-rendu de Livres en Vigne, première fête du livre qui s'est tenue au château du Clos de Vougeot les 28 et 29 septembre dernier. Un salon du livre au cœur du vignoble bourguignon qui réunissait une centaine d'auteurs et ce soir, nous mettrons en lumière les éditeurs bourguignons. Au menu de notre belle vendange, des rencontres et des interviews avec Nathalie Garance pour son polar Narcose, Robert Coulon pour un recueil de nouvelles aux éditions Mutine, tandis que David de Martis nous livrera quelques informations sur les nouveautés des éditions du Murmure. Nous n'oublions pas les éditions d'Un noir si bleu avec notamment un roman de Philippe Napoletano, L'usine. Et puis, incontournable dans le paysage éditorial de notre belle Bourgogne, les éditions de l'Armançon ne seront bien évidemment pas oubliées puisque nous avons tendu notre micro à deux de ses auteurs, Ignacio Catalan d'abord pour son dernier roman intitulé « L'amour en fugue » et Jean Barre pour son essai « Charivari et mené de l'âne ». Vignoble oblige puisque c'est le compte-rendu de Livres en Vigne. Petite mise en bouche littéraire pour commencer avec un ouvrage entièrement consacré au vin de Vézelay. Si l'on connaît mal ce vignoble, c'est d'abord qu'il n'est réapparu que récemment, après une longue éclipse due, comme ailleurs, à la crise du phylloxéra. C'est aussi qu'il est l'un des moins étendus de Bourgogne, à peine quelques hectares. Mais aussi sans doute parce que l'aura, la notoriété spirituelle, littéraire et artistique de la colline éternelle est telle qu'on peut être tenté d'oublier que des gens vivent et travaillent tous les jours au pied de la basilique et dans les villages environnants. Cet album, disponible aux éditions Rhubarbe, rassemble des photographies couleurs de Jean-Paul Sterck, accompagnées de textes de Christian Limousin. Jean-Paul Sterck, à notre micro, c'était le 29 septembre dernier, dans la cour du château du Clos de Vougeot.
Là, je pars effectivement de l'idée de Christian Limousin, donc qui m'a dit, mais à Vézelay, il existe des vignobles qui ont l'intérêt d'être photographiés, ce qui n'avait, je ne vais pas dire jamais été fait, mais ce qui n'avait pas été fait d'une manière très distincte pendant toute une année, quoi, une année de la vigne. Et donc, on est parti du mois de mai, donc la naissance de la vigne, la naissance des feuilles. Le printemps donne des ciels extraordinaires, des brumes qui ont la particularité d'être tout autour de Vézelay. Donc Vézelay n'est pas dans la brume, mais tout autour, donc les villages comme Aquin, Tarroiseau
et
Saint-Père sont sous la brume le matin. Voilà. Et donc, c'était le parcours obligé de faire, ces photos pour prouver que Vézelay a une âme.
Et puis l'âme aussi, c'est ces hommes, ces femmes aussi qui travaillent la terre, qui mettent en valeur ce terroir.
Oui. Donc ces gens donc du terroir ont les anciens ont des têtes de vignerons assez extraordinaires.
Il y a un monsieur Garnier qui apparaît à plusieurs reprises dans l'album.
Il y a Garnier, qui est un bon vigneron et qui est aussi au départ qui était donc aux renaissances de la vigne. Et Blandin aussi, Marcel Blandin, qui sont deux personnages typiques et franchement avec des têtes extraordinaires qui ont vraiment œuvré pour le renouveau de la vigne. Quoi.
Alors, il y a Maria Cuny, il y a Élise Villiers, il y a des hommes, des femmes, il y a des objets de la vigne. Il y a Marc Menot.
Bon, Marc Menot, c'est le personnage de Saint-Père qui est donc avec l'espérance. grandiloquence.
Donc, une sorte de maître, un peu.
Oui, c'est ça.
Maître voilà. Et mécène.
Oui, quand on regarde la photo, c'est vrai qu'il est à lui tout seul, il en sert tout.
Il fait très haut orchestre, oui, voilà. Devant sa vigne.
Oui, oui, donc c'est le personnage. Alors, c'est vrai que Maria Cuny, c'est Vézelay. C'est Vézelay, la ville. Elle est donc toute l'année dans son magasin. Et on ne voit, quand on monte et qu'on descend, on ne voit qu'elle. On ne voit qu'elle, c'est extraordinaire. Et toujours présente dans son petit magasin.
Jean-Paul Sterck, j'imagine que maintenant, vous êtes regardé à Vézelay un peu comme l'ambassadeur photographique du vignoble vézelien.
Ben, c'est-à-dire que mon parcours, je me retrouve avec quelques centaines d'images, de photographies du paysage vézelien. Et donc ça a son intérêt pour la promouvoir, la région et l'avenir du vignoble aussi. Donc c'est un intéressement à l'image. Donc les femmes viticultrices, donc qui ont une importance, considérable.
Elles sont bien représentées.
Elles sont très bien représentées. Donc il y a Maria Cuny qui est donc un enchèvre, mais on la trouve pratiquement tous les jours donc à Vézelay dans son magasin. Donc après Maria Cuny,
Élise
Villiers,
à
Précilmou. Où elle est dans son cheptel.
Madame le maire d'Aquin.
Madame le maire, je sais pas.
D'Aquin, oui. Madame Georgelin.
Et Madame Georgelin, donc à Aquin.
Alors vous voilà. Êtes maintenant l'ambassadeur du vignoble vézelien.
Oui, si on veut, oui. Il y a des images qui vont marquer pour des années le vignoble et du moins les paysages sous la brume, le reflet des brumes donc à Saint-Père, à Aquin.
Et puis il y a une photo extraordinaire, Jean-Paul Sterck, où on peut dire les plus des trois quarts de la photo représentent un ciel de traînée comme ça, avec Vézelay qui est tout écrasé, mais dont on reconnaît très très bien cette pointe qu'est la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Formidable cette photo. Oui, je ne sais pas où vous étiez d'ailleurs pour faire ce cliché.
J'étais donc à Aquin, à Nobleterre, donc très tôt le matin, donc au lever du jour, et donc on voit sous la brume, donc juste la basilique. Et quand on regarde bien, donc le côté donc gauche, l'arrivée du soleil, et le côté droit, le bleu de la nuit. Donc on est entre le jour et la nuit. Voilà. Donc c'est une photo qui est moitié jour, moitié nuit. Et Vézelay sort exactement de la brume.
Vézelay semble coincé entre terre et ciel.
Voilà, oui.
En rappelant finalement la terre, le vignoble, le vin, le ciel, la spiritualité. C'est absolument, absolument super. Voilà. Avec donc, bien sûr, de magnifiques photographies réalisées par vous-même, Jean-Paul Sterck,
oui.
Et des éclairages historiques, culturels, gastronomiques, apportés par l'écrivain Christian Limousin.
Absolument, voilà.
Voilà, à mon avis, me semble-t-il, un beau cadeau de fin d'année à mettre au pied du sapin de Noël.
Ben, je dirais, pourquoi pas, oui. Mais bien sûr, à consommer sans modération.
Bourgogne-Vézelay, tel est le titre de cet album de 130 photographies couleurs signé de Jean-Paul Sterck et éclairé par des textes de Christian Limousin, un très bel ouvrage disponible aux éditions Rhubarbe, un bel album qui séduira tous les amateurs de vin comme ceux de tradition et d'histoire bourguignonne. Petite escale musicale avant de partir à la rencontre de Robert Coulon pour un recueil de nouvelles intitulé Traces aux éditions Mutines et pour emprunter le chemin du polar avec Nathalie Garance qui signe aux éditions In Octavo Narcose. Alors d'abord, place à la chanson et une chanson de circonstance. Voici Alizé, À cause de l'automne.
Quand
En vigne, 6e édition qui s'est tenue lors du dernier week-end de septembre, de nombreux éditeurs bourguignons sont invités à présenter la diversité et la richesse de leurs publications. C'est le cas des éditions Mutine, créées par Marie-Thérèse Mutin, et Traces, c'est le titre d'un recueil de nouvelles de Robert Coulon. 20 nouvelles, 20 portraits de personnages humbles, modestes, avec leur petite lâcheté ou leur petit courage, perdus dans un monde de plus en plus déshumanisé. 20 tableaux de la vie quotidienne, ciselés dans un style très simple et mélancoliquement suggestif. Après une formation en art dramatique, Robert Coulon a écrit plusieurs pièces mises en onde sur France Culture ou mises en scène par le CDN de Bourgogne à Dijon et par la compagnie Le Carquois à Amiens. Trace et son premier recueil de nouvelles. Robert Coulon, à notre micro.
Moi, j'ai écrit pour le théâtre essentiellement quand j'avais une trentaine d'années. Je suis très, très intéressé par l'écriture théâtrale et par tout ce qui est visualisation de la parole sur scène. Ensuite, pendant un temps, j'ai laissé tomber l'écriture, je me suis occupé de ma famille, etc. Et je me suis remis depuis 4-5 ans à l'écriture de nouvelles, essentiellement, et à l'écriture de romans. Et puis je reviens maintenant au théâtre aussi pour écrire des textes qui tournent sur des problèmes qui sont un peu philosophiques, qui détournent des mythologies et qui surtout traitent de théâtre pauvre, c'est-à-dire où on crée l'action sur scène avec très très peu de moyens et où on fait comprendre des histoires simples entre des personnes sur des thèmes fondamentaux, comment on est aimé, comment on est en lien avec des supérieurs, un pouvoir, une famille, etc.
À la 6e édition de Livre en Vigne, vous dédicaciez au stand des éditions Mutine un recueil de nouvelles qui s'intitule Trace. Est-ce que je peux vous demander de nous le présenter un peu ?
Oui, donc...
Trace au pluriel, hein ?
Oui, c'est Trace au pluriel. Alors, Trace reprend une des nouvelles du recueil qui raconte l'histoire d'un homme qui a pratiquement quotidiennement vu un collègue de bureau pendant une dizaine d'années et qui se rend compte que lors de l'enterrement de ce collègue de bureau qui ne connaissait pratiquement rien de cette personne là et tout le recueil est construit sur cette idée de trace. Les gens au fond connaissent assez peu de choses de ce qui se passe à côté d'eux, tout ça, et chacun d'entre nous vit des moments forts, particuliers dans sa vie, qui condensent presque toute une existence sur des moments critiques. Donc c'est l'idée de ce recueil de nouvelles.
Ces traces au pluriel de Robert Coulon aux éditions Mutine. Alors aux éditions Mutine, on rencontre Nathalie Garance. Alors Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez en fait commencé à publier aux éditions Mutine et votre dernier ouvrage, enfin ce sont des polars hein, de toute façon chez Mutine. Je peux vous demander de nous en rappeler les titres si vous voulez, je ne les ai plus en tête honnêtement.
Le premier s'appelle Le sourire de l'ange et le deuxième Folcoche, en deux mots.
Et le troisième, Narcose, aux éditions In Octavo. Alors vous avez créé un personnage, un commissaire, Jules Heulé, commissaire de police, qui est frotté de philosophie. Vous êtes vous-même professeur de philosophie, une formation de psychologie assez intense, apparemment, d'après ce que, les informations dont on dispose, qui vous permettent d'ailleurs de survivre devant les élèves.
Ah, en tout cas, c'est un atout précieux. C'est vrai que les élèves s'intéressent beaucoup à la psycho. C'est quelque chose qui les passionne, donc oui, bien sûr. Ça donne quelques clés aussi pour avoir un contact un peu plus facile, notamment en cas de conflit, c'est vrai.
D'ailleurs, à propos de Max Fantine, un des personnages que l'on rencontre dans votre polar Narcose, Max Fantine, lui, trouve le vrai contentement dans la fréquentation des ouvrages de psychologie qu'il compulse à longueur de temps et dans son travail. Vous êtes un peu à l'image de Max Fantine.
Oui, sauf que je ne vis pas en prison, ce qui est le cas de mon personnage qui passe le plus clair de son temps, oui.
Jules Heulé est un commissaire de police qui se nourrit intellectuellement d'ouvrages de philosophie et qui, en tout cas, dans Narcose, est sur le point de devenir un épicurien. Peut-être l'est-il déjà. Est-ce que vous pourriez rappeler ce que signifie, au sens philosophique, être un épicurien ?
Être un épicurien, c'est chercher des réponses aux grandes souffrances qui affectent l'humain. Alors, pour Épicure, il y en a quatre. Il y a la gestion des désirs. Les désirs peuvent nous faire beaucoup souffrir. Il y a la peur de la mort, la peur des dieux, et puis la peur de la souffrance physique. Donc, à travers mes romans, je confronte mon malheureux personnage à toutes ces sources de souffrance, et il essaye justement d'utiliser ses lectures, notamment celle d'Épicure, pour finalement juger un peu de leur efficacité. Et dans le dernier, Narcose, il est confronté justement lui-même à la mort, puisqu'il se retrouve en situation très fâcheuse, et voilà, il a l'occasion d'expérimenter un peu les réponses d'Épicure.
Alors, il y a des personnages qui ont tous beaucoup d'épaisseur psychologique. Certains sont drôles, particulièrement attachants. Maxime Tropeux, qui est barman au Phileas, Maxime Tropeux. Alors, ça suppose quand même une certaine complicité intellectuelle avec vous. Maxime Tropeux dit oxymore.
Oui, oxymore, le nom dit à peu près effectivement qui est le personnage. C'est quelqu'un d'extrêmement ambigu, qui s'ennuie un peu, je crois, dans la vie et qui cherche à travers son métier, il est barman, hein, à faire des rencontres un petit peu différentes, et je crois qu'il n'est effectivement pas déçu.
Il est question aussi de sadomasochisme. Ce qui est intéressant avec votre polar, c'est que vous rappelez aussi que tout être humain a, disons, un côté un peu sombre, un côté pervers, que nous sommes tous habités quand même un peu par le mal.
Oui, effectivement. Alors Maxime Tropeux, c'est vraiment quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui s'ennuie et qui peut-être trouve un moyen de s'intéresser un petit peu à la vie à travers ses rencontres particulières. Donc à travers notamment la rencontre de cette danseuse, Sacha, qui s'ennuie elle aussi. C'est un peu la rencontre de deux personnages qui ont peut-être besoin justement de chercher dans la sexualité quelque chose d'un peu différent. Oui.
Une sexualité bien spécifique, parce que Maxime Tropeux, il se dit homosexuel, mais finalement, pour contenter Sacha, il se livre à des séances de sadomasochisme, mais il ne faut pas trop en dire. Quant à Jules Heulé, Jules, lui, alors en fait, pour donner un petit peu l'impression du polar, Jules Heulé a rencontré jadis une femme. Cette femme a été emprisonnée. Il a un parcours particulier quand même, Jules Léon. On a l'impression qu'il tire toujours les mauvais numéros.
Oui, c'est parce qu'il a une histoire, justement, une histoire fâcheuse, notamment avec sa mère. Et c'est vrai qu'il faut lire Le sourire de l'ange pour comprendre un petit peu les clés de cette histoire. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en quête, on va revenir à Épicure, hein, de la maîtrise de ses désirs et qui s'interroge tout le temps sur une forme de déterminisme affectif. Il revient toujours, notamment évidemment à cette femme, qui manifestement représente quelque chose d'important pour lui, par rapport à sa propre histoire familiale, oui.
Alors, il a une chatte de gouttière qui se nomme Athéna, donc encore un clin d'œil, puisqu'Athéna était la déesse de la raison, symbole d'ailleurs de la philosophie. Et le titre, Narcose, on ne va pas trop en dire, mais il est beaucoup question du sommeil. sommeil que l'on peut provoquer par des drogues, par des toxiques.
Alors notamment, il en est beaucoup question parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Perioli, qui est affecté d'une maladie qui s'appelle la maladie de Gilles de la Tourette. Et c'est une maladie qui peut comporter des crises de somnambulisme très violentes. Donc en fait, cet homme se réveille un matin avec du sang sur les mains, sans savoir du tout ce qu'il a fait de sa nuit, alors qu'il est enfermé dans sa chambre. Voilà, donc il est en effet question de différentes sortes de sommeil, plus ou moins artificiel. Cet homme-là est drogué puisqu'il est contraint de se soigner. Et en fait, dans le roman, il y a aussi beaucoup question de la frontière très floue entre le sommeil et la veille. Quelquefois, mon malheureux commissaire est dans une telle situation qu'on pourrait se demander si effectivement il n'est pas en train de cauchemarder.
Et le calvaire de Jules Heulet va rappeler, et là on rappelle le supplice d'Antigone.
Oui, alors pour ne rien vous cacher, je n'ai pas tout à fait cette référence en tête lorsque je l'ai écrite. Je suis partie justement de la fameuse lettre à Ménécée d'Épicure qui nous donne des clés pour gérer la peur de la mort. Et pour moi, la pire des situations, c'est se retrouver enfermé. Justement, donc je l'ai un peu enterré vivant. Et le voilà donc dans cette situation de savoir finalement qu'est-ce qui compte pour se consoler de la peur de la mort. Je crois que Jules aurait bien aimé effectivement avoir fait des choses importantes qu'il souhaitait faire dans sa vie, qu'il se rend compte que malheureusement ce n'est pas le cas. C'était peut-être la pensée qui l'aurait le plus consolé et qu'on ne trouve pas justement chez Épicure.
Et puis Nathalie Garance, il y a une boisson quand même qui a son importance. Je dirais presque elle est aux antipodes du sommeil. C'est le café. Il n'y a pas de plus excitant que le café.
Le café, c'est merveilleux parce que ça empêche de dormir et donc on peut lire. C'est ce que fait mon commissaire. Il y a des Grecs plein son lit.
Rappelons les titres des polars de Nathalie Garance. D'abord, Folcoche, en deux mots, hein, Folcoche, et Le sourire de l'ange, aux éditions Mutine, sans oublier, bien sûr, le tout dernier, Narcose, aux éditions In Octavo, pour suivre les enquêtes du commissaire Heulet. Nathalie Garance, professeure de philosophie, donne d'ailleurs régulièrement des conférences sur les liens que peuvent entretenir polars et philosophie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le blog de Nathalie Garance à partir d'un moteur de recherche. C'est très simple, vous tapez le blog de Nathalie Garance et vous allez la trouver aisément. L'actualité des éditions Mutine, elle, est distillée également sur le blog des éditions Mutine, même démarche à partir d'un moteur de recherche. À suivre à bord de Wagon Livre après l'escale musicale, l'actualité éditoriale des éditions du Murmure, présentée par David de Martis. Mais tout de suite, et c'est pour quelques minutes, c'est lui la vedette, c'est Arthur Chevalier pour La Grenouille, une chanson qui s'inscrit parfaitement dans les thèmes que cet artiste aime aborder, à savoir la mélancolie, le bonheur et l'irréel, loin des textes engagés. Bonne soirée sur Radion, tout de suite La Grenouille, Arthur Chevalier.
Il existe une question que je me pose parfois, savoir ce que j'aurais fait si tout dépendait de moi. C'était ce créateur dont on parle avec foi. Aurais-tu choisi de prendre une autre voie? Devant chaque fenêtre, y aurait des monts et merveilles. On changerait peut-être même la couleur du soleil. Les hommes et les femmes auraient de majestueuses ailes. Et même les oiseaux auraient aussi des oreilles. La vie n'est pas parfaite, mais il suffit d'un peu d'imagination pour rendre les gens heureux. De belles histoires, un peu de magie pour pouvoir goûter l'arôme du paradis, du paradis. Cholestérol serait le nom d'un poisson, les centrales nucléaires seraient des parcs d'attraction. On n'aurait jamais entendu parler de la guerre. Et tous les hommes d'affaires auraient la tête de Drucker. Toutes les femmes ressembleraient à des mannequins. Notre plus grand cauchemar serait de ne pas se réveiller, pouvoir profiter d'une autre belle journée. La vie n'est pas parfaite, mais il suffit un peu d'imagination pour rendre les gens heureux. De belles histoires, un peu de magie pour pouvoir goûter la rose. Le temps de rêver. de voir la vie sous un autre jour, de se laisser en veille d'un peu d'amour. Le seul espoir, se laisser parcourir par toute l'immensité d'un simple sourire. Le seul espoir, se laisser parcourir par toute l'immensité d'un simple sourire. Et les grenouilles chanteraient oh 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 oh. Les oiseaux répondraient. Imagination pour rendre les gens heureux, de belles histoires, un peu de magie pour pouvoir goûter l'arôme du paradis, du paradis.
Un titre de 2012 à l'instant sur votre radio locale, Arthur Chevalier, La Grenouille. C'est la fête à la grenouille sur nos ondes, mais c'est surtout ce soir la fête du livre avec le compte-rendu de la 6e édition de Livres en Vigne, qui s'est tenu les 28 et 29 septembre dernier en Côte d'Or voisine, plus précisément au château du Clos de Vougeot, château érigé par les moines cisterciens dès le XIIe siècle et complété par un corps de logis dans le plus pur style Renaissance. Connaissez-vous les éditions du Murmure installées en Côte d'Or, très précisément à Neuilly-les-Dijon? Non? Eh bien, découvrez rapidement les récentes publications du Murmure en suivant le guide David de Martis, une interview enregistrée au Point Presse de Livres en Vigne. David de Martis.
Le Murmure est né maintenant, voilà, 11 années. Il fêtera son anniversaire à nouveau au début octobre. Effectivement, on a voulu commencer les publications par des essais universitaires que nous avons assez vite abandonnés au profit de trois grandes collections, une collection, je dirais, assez littéraire, mais avec des textes extrêmement stylisés. On n'est pas véritablement dans le roman, on est plutôt dans une forme de prose poétique. On a conservé une partie des essais, mais en se rapprochant finalement deux thématiques qui sont proches du corps, quasiment essentiellement, et une troisième que l'on a développée depuis, qui est la poésie étrangère bilingue contemporaine.
Dans les nouveautés, c'est un essai, Les forteresses de l'oubli de Serge Moncombe ?
Pas du tout, justement. Là, c'est un roman, on prend le contre-pied, qui vient parler, en fait, d'une problématique globale, mais qui n'est jamais abordée, et qui a un lien extrêmement fort avec la Bourgogne, puisque c'est la question de l'assistance publique dans la Nièvre, au travers d'un roman. Donc tout se passe en filigrane, en fait, sur un roman qui est assez bouleversé de par sa forme et qui cherche à emmener le lecteur dans les affres que connaît le héros. On n'est pas là pour lui expliquer, on est là pour le perdre.
Donc le titre, c'est Les forteresses de l'oubli, c'est de Serge Moncombe. Alors j'ai pris à votre stand un ouvrage de la collection En Dehors. Gaston Chessac, bonjour à tout le monde, y compris le maire et ses conseillers. Un beau livre.
Ouvrage assez amusant. Nous intéressait de travailler déjà sur l'art brut, sur une forme artistique qui avait repoussé certaines frontières, et puis qui était un personnage historique bourguignon, hein, qui est né dans la banlieue d'Avallon, la Morlande, qui porte très bien son nom aujourd'hui. Je conseille de vous y déplacer. Et on a voulu travailler sur une partie de ces lettres qui sont restées en grande partie inédites, puisqu'elles étaient encore en possession des habitants de Sainte-Florence, un des derniers villages où il a habité. Ça a été très dur, et en fait, au travers de ses courriers, on voit un peu le rapport qu'il avait avec son entourage, mais également finalement avec tout le monde artistique et éditorial de l'époque, puisqu'il parlait aussi bien dans un même courrier du manutentionnaire casseur de cailloux à la carrière du coin, et de son ami Gallimard, avec qui il entretenait des relations épistolaires extrêmement nourries.
C'est donc aux éditions du Murmure, Gaston Chessac. Bonjour à tout le monde, y compris le maire et ses conseillers. Alors là, nous avons des petits fascicules. Il y a Esthétique de l'éjaculation d'Antonio Dominguez-Leva et puis, du même auteur, Invasion zombie. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, c'est une nouvelle collection qu'on a appelée Borderline et sous son aspect effectivement assez limite, hein, y compris des titres accrocheurs, pour pas dire racoleurs, en fait, on traite de grandes thématiques qui restent complètement tabous aujourd'hui par l'angle de l'approche des sciences humaines, de la philosophie, de la sociologie et naviguant depuis le 19e jusqu'à nos jours et en voyant quels sont finalement les différents médias qui les portent. La littérature, le cinéma, la publicité, la bande dessinée éventuellement. Et donc, bon, c'est vrai qu'on a travaillé sur le zombie, mais qui pour nous est en fait une figure particulière. Non pas qu'elle réponde à un impératif du contexte où on voit des zombies partout, mais parce qu'en fait elle incarne véritablement la populace, le groupe. On avait déjà beaucoup travaillé en fait sur le vampire qui représente en fait la figure bourgeoise, qui contrôle ses émotions, qui contrôle son animalité. Alors le zombie c'est complètement l'inverse, qui se moque de son esthétisme, qui n'existe qu'en groupe, qui n'a aucun pouvoir, dont la parole est muette. Et on travaille un peu voilà, dans cette direction-là. Sur l'éjaculation et sur l'esthétique de l'éjaculation, on remonte en fait à des pratiques martiales japonaises. Qui montrait en fait ce genre de pratique comme étant des éléments de soumission et d'humiliation. Ça c'est très fort, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui bien évidemment c'est récupéré pleinement par le porno, mais ce qui est intéressant c'est que ça soulève un autre tabou, la jouissance de l'homme. La jouissance de la femme est extrêmement bien travaillée et tout, mais la jouissance de l'homme, même si elle est relativement montrée, en particulier par le porno, elle reste complètement limitée et presque archétypale. Voilà, c'est un peu ce genre de choses, mais je vous invite à plonger à l'intérieur de l'ouvrage, bien évidemment.
Tout à fait. Et puis aussi, on peut découvrir tout le catalogue des éditions du Murmure sur son site internet.
Tout à fait. Site internet et également, bon, j'aimerais être beaucoup plus présent dans les librairies bourguignonnes. Ça, c'est un vœu cher et de toute façon, on va s'atteler à travailler aussi avec une nouvelle génération de libraires, hein, il faut le dire, avec Grégoire de la librairie Oblique à Auxerre.
Yveline Levallois à Avallon.
Exactement. Le Millefeuille à Clamcy, les Wilfried au Cyprès,
Jean du Cyprès à Nevers,
et ainsi de suite. Même si bon, on a déjà un gros travail de fait sur les très grandes villes, en fait, c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus à trouver notre public de ce côté-là. Paris, Marseille, Lyon, vous imaginez bien quoi.
Les éditions du Murmure se portent-elles bien ?
Ben écoutez, ce qui peut paraître étonnant, c'est que ça a été difficile, ça reste toujours difficile, puisqu'on approche quand même des champs éditoriaux qui prennent un peu le lecteur à rebrousse-poil, et c'est quand même pas évident, et c'est la poésie qui nous a sauvés. Puisqu'on est finalement une des rares maisons d'édition à travailler sur de la poésie étrangère contemporaine, bilingue, dans des pays, ou en tout cas avec des poètes qui restent totalement inédits en France, puisque les prochains, par exemple, ça va être néerlandais, ça va être flamand. Bon, ça reste assez, on pourrait dire en tout cas dans l'imaginaire, proche. Mais on a travaillé sur la poésie hongroise. On va publier des poètes soudanais, on travaille avec des poètes vénézuéliens, écossais, et on va aller de plus en plus loin, y compris dans les pays du Maghreb.
Pour prolonger les informations que vient à l'instant de nous livrer David de Martis et aiguiser votre curiosité, je vous invite à pianoter sur votre clavier d'ordinateur Édition du Murmure pour aller découvrir le catalogue complet de cette maison d'édition. À suivre d'ici quelques minutes, un entretien avec Philippe Napoletano, auteur du roman L'Usine, sorti en mars 2013 aux éditions D'un Noir Si Bleu. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur votre radio locale pour vous faire partager et rencontrer quelques-uns des bourguignons présents à Livres-en-Vigne fin septembre dernier. Restez à bord de Wagon Livre, la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne. Bonne soirée. Elle est auteure, compositeur, interprète, elle a 34 ans, elle a été professeure de musique et elle a été fortement influencée par Jean-Louis Murat. Voici Brune, un cheveu blanc.
J'ai un cheveu blanc sur moi et je m'effondre. Il y en a un, deux, quatre. peut-être j'ai un cheveu blanc sur moi et je m'effraie. Je vais danser dans une boîte et je m'efface devant toutes ces filles si jeunes et si belles. J'ai un cheveu blanc sur moi et tout va mal. Si je prenais la vie, si je prenais le temps de ne plus compter les années, tous les ans, tous les jours, si j'arrêtais les comptes. Si j'apprenais la vie, si j'apprenais le temps et ne plus compter les années, tous les ans, tout le temps, si j'arrêtais les compteurs. J'ai un trait au coin des yeux et je les ferme. Je me sens un peu vieille. J'ai un trait au coin des lèvres et je me tais. Je prends le chemin de l'école, mais c'est pas moi. Assise sur le banc, il y a des traits au coin des yeux et je défaille. Si je prenais la vie, si je prenais le temps de ne plus compter les années, tous les ans, tous les jours, si j'arrêtais les comptes. Si j'apprenais la vie, si j'apprenais le temps et ne plus compter les années, tous les ans, tout le temps, si j'arrêtais les compteurs. Y'a des traits au coin des yeux, y'a des larmes.
Radion. Nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter les éditions d'Un noir si bleu créées par Pascal Arnaud. Je voudrais rappeler et souligner que D'un noir si bleu est une maison d'édition littéraire qui publie essentiellement des textes courts et des romans. Et puis, il y a eu ce coup de génie avec la création de livret carte postale, un objet original à la fois littéraire et postal, à lire, puis à cacheter et à envoyer avec son message au dos comme n'importe quelle autre carte postale. Chaque livret pesant moins de 20 grammes, il suffit de la franchir au plus petit tarif en vigueur. Depuis peu, D'un noir si bleu propose d'ailleurs des livrets cartes postales pour les juniors, une collection de textes à découvrir sur le site internet des éditions D'un noir si bleu. Voici un auteur des éditions D'un noir si bleu, Philippe Napoletano, présent à Livres en Vigne. Il présente son dernier roman, L'usine. Mais qui est Philippe Napoletano ?
Alors, je m'appelle Philippe Napoletano, je suis chez un éditeur bourguignon, mais pour ma part je suis grenoblois. J'ai 47 ans, j'écris depuis un bon moment maintenant, avec un parcours chez plusieurs éditeurs. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ?
Alors, un roman chez Robert Laffont ?
Un roman chez Robert Laffont en 2005. J'ai commencé par des recueils de nouvelles chez HB Éditions, la maison d'édition fondée par Huguette Bouchardeau. Et puis, au début, j'écrivais plutôt des nouvelles. Et puis là, maintenant, je reste sur le roman. J'ai du mal à revenir au format court.
Alors, parlons-en justement des romans. D'abord, « Alors j'étais mort et je vous observais » aux éditions d'Un noir si bleu qui date d'il y a deux ans.
Oui, je crois qu'il est sorti en 2011. Ouais.
« Alors j'étais mort et je vous observais ». De quoi s'agit-il ? Quelle est l'intrigue de ce roman, Philippe Napoletano ?
Alors déjà, ce roman est issu d'une phrase, qui est cette phrase-là, que j'ai, reçue alors que j'assistais à un spectacle de danse et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais avec cette phrase ?» Et puis finalement, de fil en aiguille, on est arrivé à un drôle de réveillon de Noël, à l'issue duquel le narrateur a décidé qu'il se suiciderait. Alors le sujet n'est pas du tout le suicide, le suicide est un prétexte. Le suicide est un prétexte pour lui donner une certaine lucidité à ce narrateur, qui se retrouve avec ses frères et sœurs, et qui se retrouve en fait à disséquer son histoire familiale et lui sa situation au sein de sa famille. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on haïsse ou pas sa famille, elle fait partie de vous. Votre famille fait partie de vous et toute votre évolution est liée à votre environnement familial et à votre développement en tant qu'enfant dans votre fratrie par exemple, puisque lui est entouré de son grand frère et de sa petite sœur. Donc voilà, c'est une réflexion très intimiste Peut-être à ne pas dire un 24 décembre.
Est-ce que le sujet est gras ou est-ce qu'il se veut un peu drôlatique ? Le sujet est grave quand même.
Il se veut lucide, c'est-à-dire qu'il peut être relativement drôle. Il est surtout, ça a été. Alors moi j'aime bien me laisser entraîner quand j'écris. Hein. Je me fais pas de grilles et de plans avant d'écrire. Mais c'est peut-être celui qui va le plus loin dans cette démarche-là. C'est-à-dire que je suis vraiment allé. Je me suis laissé aller dans mon texte. Et voilà, et je me suis laissé surprendre par mon texte. Et donc du coup, voilà, il n'y a rien d'autobiographique, mais si vous voulez, j'ai même presque eu la perception, la sensation de comprendre un peu mieux mon histoire familiale en écrivant ce texte.
Est-ce que les membres de votre famille ont lu ce roman qui explore les relations familiales? Vous avez eu des retours des membres de votre propre famille?
Oui, j'ai eu des retours. Ouais.
Vous n'en dites pas plus.
Ça a été un peu brutal parce que, bon, parfois, quand on est écrivain, la famille a du mal à comprendre que lorsqu'on dit « je » dans un roman, ce n'est pas soi forcément. Et lorsqu'on dit « mon père et ma mère », ce ne sont pas forcément votre père et votre mère. Voilà. Donc, voilà, il y a eu quelques incompréhensions.
Alors, nous rappelons le titre de ce roman « Alors, j'étais mort et je vous observais ». C'est sous la plume de Philippe Napoletano et c'est aux éditions d'Un Noir Si Bleu. Je rappelle aussi que les éditions d'Un Noir Si Bleu, comme toute bonne maison d'édition bourguignonne, disposent d'un site internet où l'on peut aller découvrir le catalogue. On peut commander les livres par internet. Alors, le plus récent a pour titre « L'usine », toujours aux éditions d'Un Noir Si Bleu. Alors Philippe Napoletano, de quoi s'agit-il ? L'usine, alors en plus j'ai appris grâce à vous, c'est bien finalement on se cultive dans les salons du livre, c'est que l'usine, dit la quatrième de couverture, est une interprétation actuelle des dystopies classiques.
Alors, l'usine au départ avait un sous-titre qui était « Une mécanique de la soumission ». Voilà. Ensuite, on s'est dit que le sous-titre était peut-être un petit peu pompeux, mais il laisse entrevoir le contenu. Une dystopie, alors une réinterprétation des dystopies. Les dystopies les plus célèbres sont 1984 ou Le Meilleur des Mondes. J'en ai plus en tête, mais il y en a quelques-unes qui sont très connues.
Donc, dystopie est l'antonyme d'utopie.
Voilà, c'est une contre-utopie. Alors, une utopie, qu'est-ce qu'on fait ? Dans une utopie, souvent, on dessine une société idéale, quitte à s'apercevoir à la fin du livre qu'elle n'est pas si idéale que ça. Mais on part de cette idée-là.
L'abbaye de Thélème, par exemple, l'exemple voilà. Le plus célèbre, rablaisien.
Voilà.
Puisqu'on est au château du Clos-de-Vougeot, on peut mentionner Rabelais.
Tant qu'à faire, allons-y. La dystopie, elle, prend quelques traits d'une société, pourquoi pas de la nôtre, et en fait. Le mot caricature est trop imprécis. C'est démontre le caractère éventuellement néfaste de la société. Alors pour le coup, quand je parle de ce livre, j'ai tendance à dire, en fait, il est parti d'un élément, c'est que l'être humain a toujours recherché à se créer, a toujours cherché à se créer un papa, un supérieur. Alors ça a été Dieu, c'était la nature pendant un temps, ça a été Dieu, ça a été le fascisme, ça a été le communisme, c'est peut-être le marché avec sa main invisible, voilà, toutes sortes d'autorités de cette manière-là, ça peut être dans le monde de l'entreprise, une hiérarchie, etc. On veut toujours se créer quelque chose au-dessus, comme s'il y avait quelque chose de rassurant à être au-dessus. Dans ce livre, mon éditeur dit que c'est un 1984 à l'heure du 2.0. Moi, je dis assez régulièrement, c'est un anti 1984, un contre 1984 plutôt, dans le sens où on n'est pas surveillé dans l'usine. Et pourtant, il existe un ordre dont on se demande comment il a été fondé. Il y a un syndicat, il y a un bureau des directions. Bon, mais ensuite, notre personnage qui rentre dans ce monde de l'usine, qui d'abord se trouve très heureux d'avoir un travail régulier, d'avoir des loisirs, d'être payé correctement et de faire partie d'un groupe de gens, finalement se rend compte qu'on ne voit personne du bureau des directions, que le syndicat, très bien, mais on fait des réunions au syndicat, mais quid, qu'est-ce qui se passe ? Et donc petit à petit, il va explorer un petit peu tout ça et il va s'apercevoir que... Bon, tiens, je ne vous le dis pas, tiens.
Est-ce à dire que finalement, l'être humain s'angoisse dès qu'il sent qu'il n'y a plus de structure autour de lui ? Finalement, les structures, le pouvoir sont rassurants.
Voilà, j'ai cette sensation-là que les structures et le pouvoir sont rassurants et que malheureusement, l'être humain a un peu tendance à se restreindre et à s'enfermer en se rassurant justement avec un pouvoir et une société structurée.
Par conséquent, l'individu sans Dieu, ni maître, ni pouvoir, ce n'est pas une société utopique.
Ça pourrait ne pas l'être. Ça pourrait ne pas l'être. Moi, je pense que fatalement, si l'humain ne fout pas le feu à la planète, d'ici un certain nombre de siècles ou de milliers d'années, on aboutira forcément à une société sans pouvoir.
Votre roman, notamment L'usine, celui dont vous parlez à l'instant, vos positions ne sont pas naïves. Finalement, il y a un regard politique, sociologique, philosophique d'une certaine manière, même si l'histoire reste divertissante, mais il y a une charge peut-être aussi derrière.
Ah oui, je revendique. Effectivement, vous avez raison, c'est une histoire qui est avant tout racontée, parce qu'on en parle du côté philosophique ou politique, etc. C'est une histoire, c'est un roman, hein, c'est pas un essai en aucun cas, etc. Cependant, c'est mon roman qui est le plus marqué en termes politiques ou philosophiques, ouais.
Ce sont les événements, les contextes politiques, économiques qui vous dictent cette inspiration romanesque ?
Peut-être, ouais, peut-être. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire ce livre. Et il a été édité en 2013, alors que je l'ai commencé en 2005, parce que j'ai eu une grosse panne à un moment donné. Mais je l'ai commandé, donc il n'est pas lié à une actualité récente. Mais on peut quand même, en considérant les 20 ou 30 dernières années, s'apercevoir que justement, il y a peut-être une espèce de pouvoir là qui marche un peu sur la tête, quoi.
Alors je rappelle donc le titre de votre dernier roman aux éditions d'Un Noir Si Bleu, c'est L'usine. On peut lire le un peu plus ancien, Alors j'étais mort et je vous observais. Et puis je crois, Philippe Napoletano, qu'il faut quand même dire que pour les auteurs et les éditeurs, le pouvoir aussi, c'est un peu celui des lecteurs.
Bien vu, oui. Donc ça me laisse la possibilité, justement, je rebondis sur ce que vous dites en disant que je serais ravi de rencontrer des lecteurs dijonnais, bourguignons, à la Libre de Lu. Je crois que ce sera, enfin c'est le dimanche avant Noël.
C'est le 21 ou le 22 décembre.
C'est le 21 ou le 22 décembre, c'est le dimanche avant Noël. Et bien si les électeurs,
tiens donc, les auditeurs.
Si les auditeurs...
Mais ils nous ont choisis, ne vous inquiétez pas.
Et si les lecteurs veulent venir prendre le pouvoir sur ce livre, ce sera avec un grand plaisir.
À l'instant, Philippe Napoletano à notre micro pour nous présenter L'usine, son dernier roman disponible en librairie aux éditions d'Un Noir Si Bleu. Wagon Livre revient dans une poignée de minutes pour donner la parole à deux auteurs des éditions de l'Armançon, Jean Barre et Ignacio Catalan. Tout de suite, un titre d'une charmante jeune femme, j'ai nommé Ginéline. Qui peut le juger ?
Qui peut aimer jusqu'à oublier sa vie. Il vit dans
Excellente soirée sur votre radio locale à l'instant. Qui peut le juger? C'était Généline. À noter sur votre agenda, mercredi prochain, 23 octobre à 21h, nous aurons le plaisir de recevoir le romancier Arnaud Friedman. Il sera effectivement devant notre micro pour présenter son dernier roman, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Dernier roman qui a pour titre « Le tennis est un sport romantique ». C'est l'histoire d'une femme qui élève seule à Besançon son fils et... Alors que le petit garçon regarde une finale de Roland-Garros, sa maman lui annonce que l'un des joueurs sur le court de tennis est son père. Et le tennisman en question, c'est John McEnroe. C'est original, c'est au programme de Wagon Livre, mercredi prochain à 21h sur Radion. Pour l'heure, retour au cœur du vignoble, au château du Clos de Vougeot, où s'est déroulé Livres en Vigne fin septembre dernier, 6e édition d'un grand rendez-vous autour du livre et d'un certain art de vivre. Plaisir de la lecture, bonheur des rencontres, notamment de deux auteurs au stand des éditions de l'Armançon, des éditions bourguignonnes bien connues qui ont fêté l'an dernier leur 25e anniversaire. Après avoir écrit plusieurs romans médiévaux, Ignacio Catalan, prix littéraire du Morvan 2008 pour les Tailleurs d'Espérance, nous revient cette année avec un nouveau roman intitulé « Un amour en fugue » sorti au début de ce mois d'octobre aux éditions de l'Armançon. Mais d'abord, écoutons Jean Barre nous présenter son dernier travail sur le charivari, très vieille coutume spécifiquement bourguignonne, travail également mené sur les menées de l'âne. Disponible en librairie depuis juin dernier, l'ouvrage s'intitule « Charivari et menées de l'âne, rites et fonctions ». Écoutons Jean Barre.
Ma carrière s'est déroulée à l'université de Bourgogne, où j'étais historien du droit, et depuis que je suis en repos, je me consacre à des ouvrages moins rébarbatifs que ceux du droit ancien. Et par conséquent, j'ai été amené à plusieurs reprises à travailler avec les éditions de l'Armançon. Et depuis longtemps, j'avais emmagasiné des documents sur le charivari et la menée de l'âne, qui est une des formes assez spectaculaires du charivari.
Alors expliquez-nous un petit peu, bon, un charivari, c'est un tumulte, c'est un désordre organisé.
C'est un désordre organisé plus ou moins d'ailleurs, et la menée de l'âne est une forme du charivari, qui est aussi un désordre, mais qui a la particularité de mettre en scène un âne, ou un mulet, mais surtout un âne, et de faire chevaucher cet âne par quelqu'un qui est à l'envers, c'est-à-dire qui tourne le dos à la tête de l'âne et qui tient sa queue. Et c'est un phénomène que l'on rencontre dans beaucoup de civilisations, non seulement en Bourgogne, parce que je suis parti, mon idée première était de partir d'un souvenir de mon père dans un village bourguignon en 1905, mais j'ai trouvé des manifestations de ce genre un peu dans tout le monde méditerranéen, même dans le monde anglo-saxon aussi.
Alors, à quelles occasions, dans quel contexte y a-t-il charivari?
Souvent, le charivari est lié à un mariage, mais un mariage mal assorti, soit par une grande différence d'âge entre les époux, soit par la conduite, ou supposée au moins, de l'un des époux, et en général c'est l'épouse, avant son mariage. Et il s'agit donc d'une sorte de contrôle social du mariage ou d'une union quelconque par le groupe auquel appartiennent les époux. Mais au cours des siècles, et en particulier au XIXe siècle, le charivari est devenu une forme d'expression politique parce que, alors qu'on n'avait pas le droit de manifester dans les rues, on a utilisé le charivari pour contester un pouvoir ou contester un candidat aux élections ou un ministre, par exemple. Sous la monarchie de Juillet, ça a été assez fréquent.
Alors, le charivari n'existe plus, ne se pratique plus. A-t-il été interdit? Est-ce que c'est un usage qui s'est perdu?
Non, il est tombé en désuétude par l'évolution même de la société, l'évolution de la famille. C'est-à-dire que le charivari existe dans les sociétés où règne l'endogamie, c'est-à-dire où le mariage est quelque chose qui intéresse non seulement deux familles, mais aussi deux communautés villageoises, par exemple, ou deux quartiers, parce que le charivari n'est pas purement rural, il y a aussi des charivaris urbains. Oui, oui.
Alors, une petite anecdote peut-être sur un charivari lié au département de l'Yonne.
Alors, dans le département de l'Yonne, oui, il y a eu des charivaris relativement nombreux. Et je vois des charivaris politiques qui se sont déroulés dans la Vallonnais au cours du 19e siècle.
Donc c'est Charivaris et menées de l'âne, hein, sous-titré Rites et fonctions, c'est sous la plume de Jean Barre, c'est un essai donc. Hein,
oui, c'est un essai. Oui.
Aux éditions de l'Armançon. Merci Jean Barre. Oui, je tourne mon micro cette fois-ci alors vers un romancier, Ignacio Catalan, que les auditeurs de Wagon Livre connaissent, puisque on a déjà eu l'opportunité de le faire monter à bord de notre wagon et de le faire s'asseoir sur nos confortables banquettes. Ignacio Catalan, alors vous revenez peut-être à vos premières amours aussi, là, avec ce roman qui met en scène un personnage musicien.
Bien, pour parler de ce livre, il faut que je vous commence par vous raconter un peu ma vie. Il me faut avouer que je suis un musicien raté. Et c'est l'un des regrets de ma vie, la musique est l'un des regrets de ma vie. Alors je me suis dit, tiens, puisque j'écris, je vais essayer de voir si je suis capable de parler de la musique alors que je ne sais pas la faire. Et c'est ce qui est à l'origine de ce livre.
Alors le roman s'intitule « L'amour en fugue ». Est-ce que vous pouvez, Ignacio Catalan, en révéler un petit peu l'intrigue ?
L'amour en fugue, parce qu'en fait... pour être tout à fait franc, ce n'est pas le titre que j'avais choisi, c'est celui qu'on a choisi avec l'éditeur. Parce que, en fait, j'évoque la vie d'un virtuose qui est particulièrement égocentrique et absolument obnubilé par son idole qui est Ludwig van Beethoven. Et c'est un violoniste. Hein. Et il ne voit pas la vie autour de lui. Et il a un amour naissant qui semble assez formidable au départ et à côté duquel il risque, je dis, il ne va pas passer à côté, peut-être pas, j'en sais rien, mais à côté duquel il risque de passer parce qu'il est incapable de le voir, ne voyant que, son égoïsme de virtuose et son obsession pour son maître Beethoven.
Et donc c'est l'amour en fugue, c'est le dernier roman d'Ignacio Catalan qui quitte donc le Moyen-Âge.
Oui, j'ai voulu en sortir un peu quand même parce que j'ai commencé à prendre de la bouteille avec le Moyen-Âge et je me dis il va bien falloir que je retourne un peu vers le 20e siècle, 21e siècle même.
Oui. Maintenant 21e.
Maintenant 21e, vous voyez, j'ai encore du retard à rattraper.
À l'instant, Ignacio Catalan pour L'amour en fugue aux éditions de l'Armançon. C'est la fin du compte-rendu de la 6e édition de Livre en Vigne. Rendez-vous cette fois en 2014. Sachez d'ailleurs, si vous avez manqué le début de cette émission, que vous la retrouverez en podcast sur le site internet de Radion d'ici quelques jours. Vous pourrez ainsi noter les titres et les références de tous les ouvrages dont il a été question ce soir dans votre émission littéraire. Nous remercions l'organisatrice de Livres en Vigne, Evelyne Philippe, et tous les éditeurs et auteurs que nous avons rencontrés et qui ont accepté de prendre un peu de leur temps pour répondre à nos questions. On ne pouvait pas donner la parole à tout le monde, bien évidemment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 23 octobre, même fréquence, même heure, pour rencontrer le romancier Arnaud Friedman, qui signe aux éditions Jean-Claude Lattès. Le tennis est un sport romantique. Effectivement, l'action commence en juin 1984, au moment où se déroule la finale de Roland-Garros. Le petit Julien, qui a alors 5 ans, se trouve devant le poste de télévision et il affiche sa préférence pour Lendl. Sa mère lui révèle alors qu'il est le fils de son adversaire, John McEnroe. L'enfant a donc 5 ans et grandit dans l'ombre de cette paternité mythique, au rythme des victoires des héros du tennis qu'il rêve de supplanter un jour. C'est à suivre mercredi 23 octobre prochain à 21h sur Radion avec Arnaud Friedman. Merci de votre fidélité, nous vous souhaitons une excellente fin de soirée, douce nuit, au revoir. Thank you.